et bienvenue sur le podcast Texas Mama Blog Expat. Dans 3, 2, 1, on y va!
Parce que la fiscalité peut ne pas être brune, mais qu'elle comporte souvent 5000 nuances de gris, je reçois dans cet épisode Geneviève Paré, stratège financier, pour mettre en lumière des concepts fort intéressants dont l'expat doit tenir compte lorsqu'il choisit l'entrepreneuriat. Des éléments à vérifier avant son expatriation ou pendant, on a abordé certains mythes et clarifié des questions. Évidemment, chaque cas est unique et il convient de s'en remettre à un expert, mais les drapeaux rouges sont levés. Bonne écoute! Salut Geneviève!
Salut! Comment ça va?
Ça va bien toi?
Super bien!
Je suis tellement contente qu'on se parle aujourd'hui sur le podcast. En fait, c'est une rencontre qu'on avait prévue avant.
Oui!
La vie, hein, et tous ces aléas ont fait qu'on a remis ça un petit peu plus tard. Mais je suis super contente parce que ça nous a donné peut-être l'occasion d'aller encore plus loin dans notre préparation, puis en tout cas dans les questions qu'on pourrait aborder aujourd'hui.
Vraiment! Puis, je pense aussi qu'on a plus d'énergie qu'avant les fêtes.
Oui, parce que c'est ça, on devait enregistrer ce podcast-là en décembre et on était toutes les deux dans un tourbillon d'activités autres qui rendait la chose un peu moins facile, peut-être.
Exact. Donc, je suis vraiment, vraiment contente hein, d'être sur le podcast.
Ah, merci! Bien, je pense que les gens qui vont entendre ce podcast-là vont être contents aussi aujourd'hui parce que on va apporter des réponses à des questions que plusieurs expats, futurs expats ou peut-être même anciens expats se posent. Fait qu'on va aborder ces questions-là ensemble puisque tu es stratège financier et tu as une belle présence en ligne. Les gens peuvent aussi te trouver directement. Je pense que le plus facile, ce serait quoi? Est-ce que ce serait le groupe Facebook?
Instagram! Oui, mon groupe Facebook, La Maudite Affaire, puis mon Instagram, Jen Paris.
Parfait. Donc là, déjà en partant, les gens savent où te trouver. Et bon, là, toi, tu as flirté de près ou de loin avec l'expatriation. J'ai compris que ça peut être ça avec des clients, même des proches, puis toi, des fois, peut-être, tu y penses.
Oui. Oui, puis j'ai fait beaucoup de e-commerce, puis l'expatriation, ça ressemble. Bien, c'est sûr que quand tu fais du e-commerce, toutes les lois fiscales, les taxes, tout ça, mais on y touche. Donc, nécessairement, mais j'ai touché de près et de loin, puis j'ai aussi une belle gang d'amis expats.
Ouais.
C'est ça. Moi, mes amis, on se fait des Zooms, des Skype en buvant du vin. On se fait pas des soupers de filles.
Mais ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton approche, c'est que tu apportes quelque chose de... Bien, toi, tu parles beaucoup de douceur, mais moi, je trouve que aussi tu apportes quelque chose de lumineux presque à la fiscalité, ce qui n'est habituellement pas le cas. Tu sais, habituellement, je ne vais tromper personne en disant que... Je pense que je ne me trompe pas en disant que on voit la fiscalité, puis les taxes, les impôts, tu sais, c'est très brun, à la limite sale. Puis toi, t'es toute excitée par ce sujet-là.
Ah, je trouve qu'on peut jouer avec la fiscalité, on peut s'amuser, puis c'est vraiment... Surtout quand on a un statut différent qu'un statut de salarié, là, c'est le fun commence.
C'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, justement, entre autres, là, tout ce qui est l'entrepreneuriat de l'expat. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer par l'entrepreneur nomade. Donc, tu sais, celui qui est pas nécessairement, tu sais, qui est expatrié, mais qui se promène, tu sais. Donc, peut-être qu'on pourrait aborder son statut à lui en premier, puis voir un peu, tu sais, qu'est-ce qu'il en est de son imposition à celui-là.
Oui. Bien, en fait, en fiscalité, là, la fiscalité, c'est tout ce qu'il y a par rapport aux impôts. Donc, quand on est Québécois, au niveau de la fiscalité, on a le statut fiscal canadien, puis ton statut fiscal québécois. On s'entend, c'est comme deux grandes solitudes.
Hein? Ouais.
Donc, il faut en premier que tu t'assures que tu respectes ton statut fiscal de résident au impôts autant canadiens que québécois. Ça, comment le savoir? T'appelles au gouvernement. C'est aussi simple que ça. Parce que tu veux t'assurer que tu es dans les règles de l'art. Ça, c'est la base. Ouais. Ensuite, il y a plusieurs règles au Québec au niveau de la fiscalité. Mais ce qui est vraiment important, c'est de t'assurer, comme entrepreneur nomade, c'est de savoir où est le siège social de ton entreprise. Et là, tu vas me dire, my God, c'est quoi ça, Jen? Quand tu es travailleur autonome ou tu as une entreprise individuelle, c'est quoi ta résidence permanente? Elle est où? Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que ça va déterminer toute ta fiscalité puis aussi comment tu vas charger des taxes. T'sais, ça, on va en parler plus tard. Mais ça va déterminer aussi où tu vas devoir payer de l'impôt. Donc, ça, je pense que c'est la base pour l'entrepreneur nomade. C'est s'assurer que ton statut est clair. C'est la première chose à faire pour t'assurer de répondre à toutes les attentes des gouvernements au niveau fiscal et des impôts.
Donc déjà, on sait que ce n'est pas juste une question d'être en dehors du Canada, c'est aussi une question d'être en dehors du Québec, puis mm-hmm. de vraiment connaître ta situation pour la suite.
Oui, exactement. Parce que ça se peut que tu sois physiquement même plus un résident québécois, mais tu es encore un résident canadien. Okay. Il y a des drôles de trucs dans la fiscalité. Donc, juste assurer qu'au niveau des deux grandes solitudes, comme j'appelle, que c'est vraiment clair ton statut. Parce que ça se peut que tu n'aies plus besoin de faire de déclaration de revenus au Québec, mais que tu aies besoin encore d'en faire au Canada. Parce que ça existe, des hybrides.
Donc, est-ce qu'on peut penser que le lieu physique, tu sais, si, là, je donne un exemple, mettons grossier, là, mais tu sais, si je passe... un mois au Maroc, un mois en Chine, un mois en France. Est-ce que le lieu physique de l'entreprise se déplace aussi? Oui.
Pas nécessairement. Non. Si ta résidence permanente est au Canada, okay. ton entreprise, si tu es moins de 6 mois, là, il y a quand même des choses, tu vas rester au Québec. Donc, tu vas devoir continuer à payer tes impôts au Québec parce que, mis à part que tu as un visa, hein, on s'entend, d'habitude, on est supposé d'être légal. Et là, vous voyez mes grandes entre parenthèses. Si, admettons, tu vas aux États-Unis, si tu es nomade, il faut quand même que tu aies un visa d'habitude hein, pour travailler aux États-Unis. Tu n'es pas supposé d'être aux États-Unis, même si tu es à distance. Donc, ici, on va rire un petit peu parce que la majorité des entrepreneurs nomades vont aux États-Unis, n'ont pas de visa. Donc, c'est vraiment, vraiment important de facturer comme si vous étiez au Québec et de vous assurer que vous ayez encore votre résidence canadienne et québécoise et peut-être d'aller vous assurer que votre statut est légal dans le pays où vous êtes en étant nomade.
Voilà. Donc, en fait, il n'y aurait pas nécessairement... ça ne changerait pas nécessairement le statut de la personne si elle travaille de l'étranger, si elle est... c'est selon des critères, moins de temps à l'étranger, puis qu'elle facture comme si elle n'était pas à l'étranger.
Exactement. C'est vraiment le lieu, le siège social de ton entreprise, il est où? Puis quand tu es un travailleur autonome ou une entreprise individuelle, bien, normalement, si ton lieu de résidence, c'est au Québec, puis tu es encore un Québécois au nom de la loi fiscale, bien, ça va être vraiment ton entreprise est québécoise. Donc, tu vas te plier aux règles fiscales canadiennes et québécoises.
OK.
C'est complexe, hein, mais c'est quand même simple. T'sais, c'est vraiment... La première chose, c'est juste de t'assurer que c'est quoi ton statut fiscal. Ouais.
Parce que c'est ça, là, après ça, je suis en train de penser, pendant que tu parles, à la situation de différentes Québécoises expats que je connais. Puis, tu sais, par exemple, une qui a une entreprise, une Québécoise, qui habite aux États-Unis, qui a une entreprise aux États-Unis, mais qui déménage au Mexique pendant un an ou deux. Là, elle, sa résidence permanente, je suis toute mêlée.
Oui! En fait, là, elle, c'est différent parce qu'elle doit être incorporée aux États-Unis. Donc, ses revenus, c'est des revenus aux États-Unis. Mais si elle a encore sa résidence fiscale, hein, on s'entend, c'est ta résidence fiscale. Ouais. Si elle est encore fiscalement une résidente du Canada, là, elle va se retrouver à faire l'équivalent de peut-être 3 déclarations de revenus. C'est-à-dire, elle est obligée aux États-Unis parce qu'elle est incorporée aux États-Unis. Ensuite, si elle est résidente fiscale au Canada, elle va devoir faire une déclaration de revenus au Canada. Puis si elle est résidente du Mexique, selon son statut, là, ça, c'est vraiment différent, peut-être qu'elle va devoir faire aussi une déclaration de revenus au Mexique. Donc, au niveau de la fiscalité, c'est assez intense.
Oui, c'est ça. Puis dans le cas d'une personne comme celle là, dont on vient de prendre l'exemple, est-ce que Tu lui suggères de rencontrer une personne, un fiscaliste aux États-Unis, au Mexique, au Canada ou les trois?
Pas nécessairement. Je te dirais, le plus important, c'est de rencontrer un fiscaliste qui s'y connaît bien, c'est-à-dire avec les statuts de résidence multiples. Il y a des experts fiscaux qui sont experts là-dedans. Donc, c'est vraiment de t'assurer que c'est un expert qui comprend autant les lois fiscales canadiennes que américaines, puis sûrement qui va travailler avec un autre expert qui va bien connaître les lois mexicaines. Donc, c'est vraiment, ils doivent travailler de pair. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est super important, c'est d'aller chercher ces experts-là parce que les pénalités fiscales peuvent être vraiment intenses. Puis aussi, au niveau de vos statuts, c'est important de ne pas être trop illégal parce que tu ne veux pas te faire non plus, entre parenthèses, bannir ou restreindre l'accès à certains pays. Donc, surtout pour quelqu'un qui a un statut fiscal spécial, tu sais, qui est un peu hybride, c'est super important là, d'aller chercher vraiment des professionnels qui peuvent vous aider là-dedans. Là.
Parce qu'au fond, c'est ça, c'est de trouver un professionnel qui va être capable de faire le pont entre les frontières, à travers les frontières. Ça m'est arrivé souvent, ça m'est arrivé quelques fois depuis qu'on est parti, d'avoir une discussion avec quelqu'un qui fait de la comptabilité au Québec. Puis là, je lui parle d'un cas aux États-Unis, mais ses réponses ne sont pas justes. Pas parce qu'il ne connaît pas sa fiscalité québécoise ou canadienne, mais parce qu'il ne connaît pas nécessairement les données qui font le pont entre les deux pays.
Oui, et puis surtout aux États-Unis, la fiscalité, elle est vraiment spéciale. C'est-à-dire, tu es imposé au niveau du pays, ensuite au niveau de l'État et parfois au niveau de la ville.
C'est ça.
Peux-tu croire? Fait qu'il y a trois paliers d'imposition. C'est impressionnant à quel point c'est important, surtout pour ton ami, admettons, qui s'est incorporé aux États-Unis. Moi, mon petit truc fiscal, c'est de t'incorporer au Delaware. Parce que le Delaware, c'est l'endroit le mieux pour s'incorporer si tu es Canadien. Parce que tu n'as pas besoin d'être physiquement au Delaware, puis tu vas être imposé dans juste ce pays-là. Cet État-là et au niveau du pays. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'impôts au niveau de la ville. Fait que c'est ça aussi, de faire attention quand tu t'incorpores aux États-Unis, de bien comprendre le lieu physique où tu t'incorpores.
Mais tu peux le choisir.
Exactement! C'est ta plus grande chance. Puis, tu sais, admettons pour les expats là, qui aimeraient ça s'incorporer, tu peux être incorporé au Delaware et être un Canadien. Hein?
Ouais.
Donc, si tu as pour idée d'aller... vivre un jour aux États-Unis, c'est une manière plus facile d'avoir un visa par la suite et de réguler ton statut si tu as déjà une entreprise là-bas. Fait que c'est quelque chose que fiscalement peut être vraiment intéressant.
Est-ce que tu peux l'incorporer avant? Ouais, c'est ça, mais est-ce que tu peux l'incorporer avant de t'expatrier?
Oui, exactement. Fait que tu peux incorporer au Delaware autant d'années que tu veux avant. Puis toi, tu peux te verser des dividendes. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose, une planification fiscale à faire si tu veux aller vivre aux États-Unis. Tu sais, c'est pas juste les petits visas. Il y a vraiment plusieurs options qui s'offrent à vous qui peuvent être très, très intéressantes.
C'est vraiment intéressant. Maintenant, j'aimerais savoir, parlons de double imposition.
Oui!
c'est le sujet si souvent abordé là, par nous, les expats. Qu'est-ce que tu pourrais nous enseigner à ce niveau-là?
Oui, bien là, je vais prendre l'exemple là, que je t'ai dit tantôt. Ouais. Admettons, moi, j'ai des dividendes américains, j'ai des dividendes de d'autres pays. Donc, j'ai des revenus qui viennent de d'autres pays. Mes revenus vont être imposés dans le pays auquel, admettons, aux États-Unis, je vais devoir faire une déclaration de revenus. Puis, je vais être imposée. Par la suite, ces revenus-là, je dois les inclure dans ma déclaration de revenus canadienne et québécoise. Mais il y a une petite ligne qui s'appelle impôt étranger. Okay? Ça, c'est vraiment important parce que vous n'allez pas être doublement, triplement imposé. Sinon, ça n'aurait aucun bon sens. Là, on paierait du 90% d'impôt. Donc, c'est ça. C'est que ça va aller diminuer. C'est sûr que tu vas devoir payer les trucs un peu comme les cotisations médicales, le RRQ, le RQAP, peut-être sur certains revenus que tu as, mais tu ne seras pas doublement imposé. Pourquoi les gens pensent que tu es doublement imposé? C'est qu'admettons, aux États-Unis, le taux est peut-être à 10 %, puis ici, on est à 35 %, mais c'est sûr que là, le gouvernement va t'imposer le 25 % de différence. parce qu'on est plus imposé.
Donc,
mais tu ne seras pas imposé. Exactement. Ils ne vont pas t'imposer 10 % plus 35. Ils vont t'imposer 10 % plus 25 égale 35. Fait que c'est ça. Ça, là, c'est vraiment de base, là. Mais c'est ça. C'est la logique. C'est sûr que si tu es incorporé, c'est vraiment différent. Mais si tu es travailleur autonome ou tu as une entreprise individuelle, c'est vraiment ça. L'important, c'est vraiment de le déclarer. De vraiment déclarer tous tes revenus que tu as à l'extérieur comme au Canada. Par contre, si tu n'es pas supposé de travailler aux États-Unis, je ne te recommande pas de déclarer ces revenus-là. C'est tout.
Si tu pouvais juste clarifier là, pour les personnes qui écoutent la différence entre être incorporé puis être travailleur autonome,
oui,
pour que les gens fassent la distinction dans ce que tu veux dire.
Quand on est travailleur autonome ou on a une entreprise individuelle, c'est comme si Geneviève Paré travaille. C'est tout. Je suis une entité au complet. Donc, mon entreprise et moi, on est la même personne au niveau fiscal. Si tu as une entreprise individuelle au Québec, il faut peut-être enregistrer au registre des entreprises Québec, mais tu n'as rien d'autre. Donc, tous les revenus que tu fais vont être imposés personnellement. Donc, tous les revenus de ton entreprise vont être imposés personnellement. Pourquoi les gens s'incorporent? C'est que ça devient une deuxième entité. Ça devient une entreprise, si on veut. Mais fiscalement, c'est vraiment scindé en deux. Ça n'appartient plus à Geneviève Paré en termes de revenus. L'incorporation, elle est imposée à son taux et Geneviève Paré est imposée à son taux. C'est sûr que si l'entreprise te verse un salaire, là, tu es imposé selon ton salaire et tes dividendes. Vas-y.
J'imagine que ça a un impact particulièrement quand tu fais faillite aussi, là, l'incorporation versus l'entreprise individuelle.
Oui et non. Maintenant, souvent, il va falloir que tu sois, tu cautionnes tes prêts d'entreprise avec ton nom privé. Donc, si tu dois cautionner avec ton nom privé, ça revient au même. Mais c'est plus, oui, au niveau légal, souvent, ça peut être très intéressant de s'incorporer. Aussi pour les mamans, ça te permet de te verser des dividendes et de peut-être mieux gérer ton profit et ton revenu. Donc, mieux gérer tes crédits d'impôt, mieux gérer tes allocations. Donc, c'est vraiment pour faire plus de la saine gestion de tes revenus. Moi, j'aime l'incorporation pour ça. Par contre, il ne faut pas s'incorporer à tout prix. Quand tu es entrepreneur, là, ça ne sert à rien de s'incorporer, sauf au niveau légal, comme tu disais. Puis, si tu vas aller chercher des prêts pour entreprise, tout ça, c'est plus selon ta situation personnelle, selon ta situation familiale, que ça peut être intéressant fiscalement de s'incorporer. Et là, on joue avec l'impôt. Tu sais ce que je te dis? Mais c'est vraiment d'aller se dire, OK, je vais me verser tant de salaire. Là tu vois, je commence à m'énerver. Là. Mais tu sais, je me verse tant de salaire, comme ça, j'ai tant d'allocations, puis aller vraiment maximiser le système qui est déjà en place fiscale. Puis pour les expats, ça peut être vraiment intéressant si vous êtes encore fiscalement un résident canadien et québécois. L'incorporation peut être vraiment intéressante. Oui.
Ah, OK, parce que ça a ses avantages. D'être incorporé au Québec, mais vivre à l'étranger.
Oui, puis l'incorporation, tu peux être incorporé au Québec, tu peux être incorporé au Canada. Là, c'est là que c'est super important d'aller voir un fiscaliste et un avocat, les deux, pour aller voir c'est quoi le meilleur statut pour ta situation à toi, avant de t'incorporer.
Donc, c'est vraiment au cas par cas.
Oui, toujours. Là, on reste très général aujourd'hui, mais
oui, c'est ça.
C'est juste pour voir les possibilités. On va dire ça de même.
Exactement, parce que là, devant les possibilités, après, les gens peuvent aller rencontrer leurs experts dans leur pays, dans leur domaine, etc. Puis, en fait, de fiscalité, là, et de voir c'est quoi la meilleure alternative pour eux. Tu l'enregistres aussi, si je ne me trompe pas, l'entreprise individuelle, là, avec un minimum de revenus.
Tu n'as même pas besoin d'avoir du revenu pour avoir une entreprise individuelle. C'est juste que si tu ne fais pas affaire sous ton nom et prénom au Québec, tu es obligé de t'enregistrer.
Ouais.
Donc, admettons que moi, je faisais affaire sous la maudite affaire, même si je suis une entreprise individuelle, je suis obligée d'aller l'enregistrer. Mais si je fais facture au nom de Geneviève Paris, je ne suis pas obligée. Je reste travailleur autonome. Donc, c'est ça la différence.
Puis là, on prend un expat fictif X.
Oui.
Elle décide qu'elle devient entrepreneur, puis elle voudrait avoir son entreprise aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Mais là, j'imagine que tu vas faire une nuance là, selon l'endroit où c'est. Ce serait quoi la meilleure marche à suivre là, pour bien faire les choses à l'étranger?
Oui. En fait, le premier, c'est t'assurer que ton statut est correct. Ce qui veut dire le statut dans le pays que tu t'en vas. Donc, je sais qu'aux États-Unis, il y a quelque chose de très intéressant pour les entrepreneurs. Il y a des spécificités si tu es en France, parce que je sais que c'est un podcast aussi francophone. Donc, si tu es en France, il y a certaines spécificités. Si tu es au Canada, il y en a d'autres. Donc, tu as soit que tu crées ton entreprise là-bas, que tu as un employé, et ça te permet d'avoir le statut de résident américain. Avec selon, c'est un visa, je crois, E2 ou E3. Ça, c'est ça. Par contre, il y a je dirais quand même, un investissement financier assez intense à avoir. Je crois qu'il te demande quasiment 100 000 piastres dans ton compte de banque, je crois. C'est ça. Parce que j'ai une super bonne amie avec qui on regarde ça en ce moment. Puis je suis en train de tout démystifier ça, là. Si tu veux, on fera un autre épisode là-dessus. Mais parce que je suis là-dedans en ce moment, j'ai une amie entrepreneur qui veut créer sa compagnie aux États-Unis. Okay. Puis sinon, on est vraiment en train de regarder si tu peux te faire sponsoriser aussi. Donc, avoir un side job et tu t'incorpores aussi aux États-Unis. Puis, c'est ça. Tu peux avoir ton entreprise aux États-Unis, puis avoir un side job si tu n'as pas le 100 000 $ de caution, si on peut dire.
Oui. Ouais, donc là, c'est l'entreprise pour laquelle tu travailles, ton employeur qui va...
te sponsoriser.
Oui.
Puis sinon, tu peux demander la green card, c'est ça?
Oui.
Oui, mais qui est très longue. Oui, c'est ardu à avoir. Là. Fait que voilà.
Donc, oui, OK. Ben là, c'est ça, la green card, c'est parce que c'est pas comme une option, c'est pas comme, t'as juste à prendre la carte, tu sais.
Non.
C'est ça, il y a comme un processus aussi au niveau légal, tout ça qui est
assez
complexe. Je sais pas, dans les autres cas, tu sais, je veux dire, comme tu parles de sponsorisation, il y a le fait aussi que il faut qu'il existe cet employeur-là, tu sais, qui...
Exact. Oui.
Qui accepte de faire ça. Donc... je suis en train de me demander, tu sais, la meilleure chose, la meilleure stratégie, est-ce que ça semble être de développer son entreprise au Québec et de bouger après ou de bouger en se lançant à l'étranger? Y a-t-il quelque chose qui semble être...
Mais admettons, pour les États-Unis, moi, ce que je ferais, c'est que j'incorporerais ton entreprise déjà aux États-Unis pour prouver que ça fait longtemps que tu fais affaire. Et vu que la loi, c'est toujours une espèce de belle zone grise et c'est toujours du cas par cas, le fait que tu es aux États-Unis, que tu crées de l'emploi, tu sais, ils aiment beaucoup le « made in USA » aux États-Unis, c'est sûr que toi, peut-être que là, ils vont faire une exception à la règle. Donc, c'est pour ça. Si dans ton plan, c'est vraiment de bouger aux États-Unis dans les 5 prochaines années, moi, je m'incorporerai pas au Canada, ni au Québec, mais bien aux États-Unis. C'est sûr que là, c'est un conseil à la va-vite, là. Ouais. Mais vraiment d'aller voir avec un fiscaliste, quelqu'un qui est très, très bon là-dedans pour ta situation à toi. Sinon, je garderais mon statut, mon entreprise au Québec parce que tu as quand même beaucoup, beaucoup d'avantages à être au Québec.
Oui, c'est ça. Puis surtout quand on pense au plan du futur, tu sais, au retour, etc., tu sais, ça peut être compliqué aussi, là.
Exactement.
Donc là, tu sais, c'est sûr que, bon, on en avait parlé, là, j'avais plusieurs questions soumises par des expatriés qui sont dans le groupe de Québécoises expatriées. En même temps, aujourd'hui, tu sais, j'essaie d'aborder des questions qui sont plus près de l'entrepreneur, du travail, de l'entreprise, etc. Mais on pourrait aborder la question du visa. Qui permet, tu sais, le visa voyage-travail, là, on en avait parlé un peu avant le podcast, mais par exemple, tu t'en vas en Australie avec un visa de ce type-là, où tu dois déclarer ton revenu.
Oui, c'est super important quand tu as ton visa, c'est ça, voyage-travail, de t'assurer de bien déclarer ton revenu au Canada aussi et au Québec, si tu es encore résident fiscal. Tout part de là. Donc, si c'est quelqu'un qui part juste 6 mois, admettons 4 mois durant l'année, parfait. tu peux, tu dois absolument déclarer ton revenu au Canada, puis tu vas payer des impôts australiens. Tu payes des impôts dans le pays auquel tu es, qui t'a fourni le visa. Donc, assure-toi de remplir tes déclarations de revenus et assure-toi aussi d'être légal à ce niveau-là. Parce que tu ne veux pas ne pas pouvoir retourner en Australie parce que tu as oublié de payer tes impôts quand tu avais 19 ans.
Non, c'est ça. Mais en même temps, ce qu'on m'avait indiqué là, quand on était venu aux États-Unis, dans notre cas, c'était, tu sais, dans le fond, tu vas déclarer le revenu dans le pays où tu as les fesses quand tu travailles. Tu sais,
exact.
De façon exactement. Générale. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des fois où tu vas être en voyage et tu vas faire quelque chose pour ton entreprise. Là. Mais c'est pas ça le point. Tu sais, le point, c'est où tu te trouves.
Exactement. Oui. Tu sais, c'est pour ça que c'est un peu complexe, les entrepreneurs nomades, parce que je te disais, souvent, ils n'ont pas de visa pour travailler dans le pays où ils sont.
Ouais.
Tu sais, ceux qui disent « Ah, je travaille de mon ordi », je pense pas que tu as un visa au Mexique en ce moment pour travailler, mais tu travailles quand même. Donc, eux vont être nécessairement 100% imposés au Canada. Par contre, si tu as un visa pour travailler puis que ton statut est légal, c'est vraiment, si admettons, tu passes 4 mois en France, tu as un permis de travail en France, puis après ça, tu passes 4 mois en Australie, bien, tu vas avoir 3 déclarations de revenus à faire, c'est-à-dire en fait 4. Au Québec, au Canada, en France et en Australie. Fait que c'est ça, de faire vraiment attention à tous les endroits physiques où tu as travaillé et que tu étais légal de travailler. Ouais. Il faut que tu remplisses une déclaration de revenus.
Exactement. Parce que ça amène encore la distinction entre celui qui conserve les critères de demeurer résident, tu sais, au Québec, au Canada, puis celui qui, ou celle, qui va dépasser les limites de temps.
Exactement.
D'ailleurs, puis là, il va tomber dans une autre catégorie. Là.
Exactement.
Ça peut être une d'heure, pratiquement. Là.
Exactement. Oh oui, des fois, là, c'est tellement minime, hein, la différence. Là. Donc, ouais, c'est juste de s'assurer au niveau légal que tu remplis toutes tes déclarations de revenus. Partout.
Oui, c'est ça. C'est juste ça. Puis en même temps, c'est tout ça. Tu sais, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont parties, tout simplement? Peut-être, mettons, une conjointe accompagnatrice, je pense à elle, au pluriel, ou un conjoint accompagnateur, s'il y en a aussi, et qui décide de commencer à travailler de l'extérieur une fois sur place. Oui, il y a un visa. À l'étranger ou d'autres documents là, qui lui permettent d'être là. Mais qu'est-ce que tu conseilles de faire en premier pour s'assurer que tout est legit en bon français?
En premier, là, c'est d'appeler au gouvernement du Canada et au gouvernement du Québec pour t'assurer, à Revenu Québec, Revenu Canada, pour t'assurer c'est quoi ta situation fiscale en ce moment. Mmh. Est-ce que tu es encore considéré comme un résident fiscal? Puis ensuite, ça va être, tu sais, normalement, votre statut fiscal devrait être clair. Si ce n'est pas le bon, c'est le bon temps pour rétablir la situation. Puis ensuite, normalement, si tu n'es plus résident canadien fiscalement parlant, là, je ne sais pas, admettons toi, si tu es encore résidente canadienne, mais normalement, toi, tu vas faire juste une déclaration de revenus aux États-Unis. Tu ne devrais plus en faire au Canada.
Non.
Fait que c'est ça, exactement. Fait que tu as juste une déclaration de revenus à faire. Par contre, assurez-vous que votre statut d'entreprise est le bon. Parce que chaque pays est très différent au niveau de l'entrepreneuriat et du travailleur autonome. Donc, peut-être aller sur les petits sites du gouvernement, de chaque gouvernement de chaque pays. Peut-être aller faire un petit tour à l'ambassade canadienne pour poser des questions. Ça pourrait être vraiment intéressant. Puis comme ça, vous vous assurez que votre statut est légal.
Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, on est dans la prévention. C'est pas nécessairement sexy de faire la recherche. Mais ça dépend pour qui. Pour Geneviève, ça l'est. Mais ça évite des embûches pas mal plus importantes par la suite.
Oui, puis faites attention à ce que votre matante de votre fesse droite vous dit. Parce que souvent, les gens entendent quelque chose, comprennent pas la fiscalité, comprennent pas l'impôt, interprètent ça avec leurs lunettes et vous disent un peu n'importe quoi. Donc, c'est vraiment important, surtout pour vous, les expats, là, vous avez des situations tellement hybrides, tellement qui peuvent être tellement complexes, mais simples en même temps, mais elles sont différentes. Donc, c'est vraiment peut-être d'aller voir un bon fiscaliste qui va pouvoir vous éclairer là-dessus. Ou je sais que les notaires sont vraiment bons aussi. Il y a certains notaires, puis il y a certains avocats aussi qui sont spécialisés là-dedans. Et c'est ces gens-là qui vont pouvoir vraiment répondre à vos questions. Tu sais, ça vaut le... T'sais, une consultation avec une avocate, là, c'est à peu près 250 $ de l'heure, là. Mm-hmm. Et je pense que c'est la demi-heure la mieux investie. Genre, prévois dans ton budget 150. Tu vas être heureux. Ouais, ça va t'enlever tellement de stress, là.
Ça démêle tellement d'affaires. Puis, tu sais, en même temps, c'est un autre truc à vérifier. Tu sais, fiscaliste, avocat, notaire, c'est pas exactement la même profession. T'sais, ils n'ont pas toujours exactement toutes les mêmes. T'sais, des fois, dans un pays, ça, pour certaines questions, il y en a un qui va être plus spécialisé que l'autre, contrairement à dans un autre pays.
Exact.
Il faut peut-être prêter attention à ça aussi. Sinon, je ne sais pas si tu as comme d'autres conseils généraux à donner.
Oui! Hey, on parle des taxes. Il faut qu'on parle des taxes.
Okay.
Parce que toi, tu m'as posé une question, puis ton adjointe aussi, puis je trouvais ça vraiment intéressant. On va prendre ton exemple, OK? Admettons, moi, j'ai en ce moment une entreprise individuelle au Québec.
Oui.
Je suis inscrite aux taxes. Donc, à la TPS puis à la TVQ. Je te facture, admettons, une heure. Toi, tu es physiquement au Texas. Moi, mon siège social de mon entreprise individuelle, qui est Geneviève Paris, est au Québec. Est-ce que je dois te charger de la TPS TVQ? Ça, c'est la question la plus grande au monde. Et c'est non. Ce qui est important de savoir au niveau des taxes, puis je trouvais ça vraiment important, là, je vais l'aborder d'un niveau très, très, très haut niveau, là. Mm-hmm. C'est de savoir où est située ton entreprise à toi, celle qui facture. Donc, l'entreprise qui facture doit facturer les taxes selon la localisation de ton client. Donc, toi, admettons, tu es au Texas, on le sait. Maintenant, aux États-Unis, on doit charger certaines taxes selon certains États, comme en France, la VAT, là, la TVA aussi.
Ouais.
En Europe, il y a la VAT maintenant. Donc, on est dans l'obligation de charger certaines taxes. Donc, ta job comme entrepreneur, c'est de savoir où habite ton client. Ça, c'est ta première job.
Ouais.
Et si ton client n'est pas au Québec, tu ne dois pas lui charger de la TVQ, qui est la taxe du Québec.
Non.
Tu dois juste lui charger, admettons, la TPS ou la TVH si, admettons, il est au Canada. Parce que ça, c'est la taxe du Canada. Puis s'il est aux États-Unis, tu ne lui chargeras jamais de TPS ni de TVQ parce qu'il est où? Il n'est pas au Canada ni au Québec. C'est fou, hein? Donc là, admettons, toi, si, selon la loi, je ne connais pas cette loi-là, s'il y a une règle fiscale au Texas qui dit que je dois te charger des taxes et déposer cet argent-là au Texas, bien peut-être que je vais devoir te charger même la taxe du Texas. Ah! Donc, faites vraiment attention. Moi, c'est le truc que je capotais en e-commerce. C'est de faire vraiment attention selon la localisation de votre client. Et c'est pas pour rien que en e-commerce, les gens ne livrent pas partout. C'est à cause des maudites taxes.
Ben oui, c'est ça, parce que ça peut...
Parce que ça peut devenir la folie.
Mais
donc,
oui.
Toi, Dominique, tu devrais jamais avoir à payer de la TPS ni de la TVQ, malgré le fait que peut-être tu as une adjointe au Québec. Voilà.
C'est ça. Ou n'importe quel service, en fait, que je prends du Québec. Là, je me demande si c'est la même chose pour les biens.
Ça dépend. Okay. Là, c'est ça. Là, ça, c'était les services à distance.
Ouais.
Au niveau physique, c'est vraiment où le client va acheter. Fait que toi, si tu es au Québec et tu achètes une barre de chocolat, ben, tu es au Québec, tu vas payer la taxe.
Ouais.
La TPS TVQ. Mais si c'est un bien qui est livré ou un service, c'est là que la taxe, elle n'est pas applicable. Donc, c'est ça.
Donc, normalement, tu fais venir un produit du Québec au Texas, tu ne devrais pas payer des taxes.
Exactement.
Mais la plupart des gens ne le savent pas, tu sais, les entrepreneurs au Québec, parce que, bon, c'est pas comme aussi populaire que, je sais pas, le bleu jeans bleu, le coton ouaté.
Le monde fait... est... Non, les taxes, c'est pas connu encore. Ben, tu vois, c'est mon cheval de bataille, vraiment. J'en parle beaucoup, beaucoup. C'est ça, c'est la douceur financière, comprendre la fiscalité, comprendre les taxes, c'est tellement important. Puis, je pense sincèrement que what you don't know, là.
Mais il y a quand même
dit, tu le sais pas. Là.
C'est quoi l'impact pour l'entrepreneur au Québec qui vend un bien au Texas, par exemple, ou ailleurs? puis qui charge une taxe alors qu'il ne devrait pas? Parce que là, il va déclarer cette taxe-là, j'imagine.
C'est l'horreur. Si tu la déclares, c'est moins pire que si tu... OK, il y a vraiment deux scénarios. Admettons que toi, tu faisais à semblant que tu payais de la TPS TVQ. OK?
Ouais.
Fait que quand tu factures le 15 % de TPS TVQ. Moi, je suis inscrite aux taxes, donc quand je remplis ma déclaration de taxes, je vais aller les déduire. Mais toi, tu n'es pas inscrite pour de vrai aux taxes parce que ton statut n'est pas bon. Et la responsabilité de savoir si tu es inscrite ou pas aux taxes, c'est la mienne. Et là, ce qui arrive, c'est que si j'ai déduit des taxes que je n'aurais pas dû déduire, c'est de l'argent que je dois au gouvernement. OK? Et tu peux-tu croire qu'ils vont te charger des pénalités et des frais d'intérêt là-dessus quand ils vont venir t'inspecter?
Le c'est plus là, tu parles du vendeur de biens.
Oui. Fait qu'admettons, c'est l'extrant, là, tout ce qui sort, toutes les factures que tu reçois quand tu es entrepreneur puis qu'il va aller déduire ton revenu, tu vas aller aussi déduire tes taxes.
Ouais.
C'est vraiment important de t'assurer que la personne est bel et bien inscrite aux taxes. Genre, si la personne, son entreprise est située aux États-Unis, elle n'est pas supposée de te charger des taxes.
Non,
sauf si, maintenant, elle est inscrite à la TVQ et à la TPS, admettons. Donc, juste, c'est ta job. Il y a un site Internet vraiment cool qui te permet de voir chaque entreprise si elle est inscrite ou non aux taxes. Fait que ça, c'est sur le site Internet de Revenu Québec, là. Donc, ça, c'est vraiment simple. Fait que ça, c'est si tu te fais facturer avant de l'inclure dans ta déclaration de taxes, assure-toi que la personne est bel et bien inscrite aux taxes. Ensuite, si tu as chargé des taxes à la personne et tu n'étais pas supposé de lui charger, tu vas avoir des pénalités.
Donc, est-ce que c'est un peu, mettons, mon devoir en tant qu'expat aux États-Unis qui se fait charger une taxe par une compagnie populaire de Montréal, mettons, qui vend des barres de chocolat. Je lui achète des barres de chocolat, elle me charge des taxes, les barres de chocolat arrivent, elle reçoit son montant et ses taxes. Est-ce que c'est mon devoir peut-être un peu de lui dire « Hey, tu devrais me rembourser mes taxes? »
Oui, parce que toi, tu ne pourras même pas les déclarer fiscalement.
C'est ça. Mais je
ça devient une perte pour toi. Oui, ça va être vraiment.
Ouais. L'individu qui achète le chocolat, je ne parle pas de l'entreprise. C'est l'autre, c'est un entrepreneur au Québec. Mais ici, tu as un individu aux États-Unis. Est-ce que c'est un peu son rôle aussi de lui dire « Hey, tu ne devrais pas me charger des taxes? » Mettons que tu ne sais pas.
Oui, et bonne chance, parce que la majorité des comptables qui sont souvent des techniciens comptables ne comprennent même pas cette fiscalité-là.
C'est ça.
Donc, les gens vont venir vous challenger et c'est là à dire « Ben non, tu ne me chargeras pas de taxes, appelle le gouvernement. » Puis quand ils vont appeler le gouvernement, ils vont comprendre qu'ils n'ont pas changé ces taxes-là. Mais ouais, c'est un peu notre devoir, je te dirais, mais... C'est ça. C'est encore un monde pas très connu.
Non, c'est ça, parce que, je veux dire, moi, c'est des services auxquels j'ai eu recours au Québec. Puis, je te dirais que, tu sais, à part Geneviève Paré, il n'y a jamais personne qui était au courant de ça. Puis, à chaque fois, j'ai levé le drapeau, mais tu sais, un peu d'une façon, c'est plus pour toi que pour moi, tu sais, parce que c'est vraiment le cas. C'est pas des montants énormes, là. À chaque fois, c'est soit les gens m'ont obstiné, soit ils sont allés faire leur devoir de vérifier, puis ils sont venus en disant « Hey, c'est vrai? »
Oui. Fait que, il y a même des comptables qui m'obstinent, puis qui reviennent, puis disent « Ah, c'est vrai! » Je suis comme « Ben oui!
» Oui,
c'est mais c'est
ça.
Pas tout le monde non plus qui est expert en taxes.
Non,
il y a ça aussi. Tu sais, moi, pour avoir eu mes entreprises de dropshipping, j'ai fait du dropshipping, j'aurais jamais compris autant bien les taxes. Parce que, tu sais, quand on parle d'experts, là, un expert qui a vécu ta situation, un expert qui vit, admettons, un fiscaliste qui est nomade, ça devrait être ton meilleur ami.
Ouais.
Parce qu'il va aller tester tout et il va tout connaître. Parce que, hein, on est vraiment bon pour nous-mêmes. Pour aller chercher toutes les crédits, aller démystifier tout ça. Donc, c'est sûr que moi, au niveau des taxes, ouais, ça, oui, c'est ça. Moi, je t'ai référé à un cool guy qui est nomade, mon ami CPA fiscaliste. Puis, c'est ça, c'est vraiment de t'assurer que cette personne-là connaît ton industrie et peut-être fait même partie de ton industrie et de ta situation. Fait que c'est pas tout le monde qui peut vous aider.
C'est ça, non. Puis lui, il a voulu, en toute connaissance de cause, pour lui-même faire la bonne chose. Donc, tu sais, ça peut pas être mieux que ça, là, quand tu cherches
pour tes enfants. Oui, et puis quand tu cherches pour toi-même, tu coupes pas les coins ronds, là.
Non, c'est ça.
C'est ça.
Exactement. Fait que, tu sais, lui, il est allé chercher les meilleures informations, finalement, pour être gagnant puis pas se mettre dans le pétrin.
Oui, fait que, oui, puis je tiens aussi à préciser à tous les entrepreneurs de faire très attention à la VAT, donc la taxe de vente au niveau de l'Europe. Donc, oui. Assurez-vous d'être légal et n'oubliez pas que maintenant, toute personne qui charge un client au Québec est obligée d'être inscrite au fichier de la TVQ. Oui. Donc, si tu as des clients au Québec, il faut que tu sois inscrit à la TVQ.
Même si voilà. Tu es à l'étranger.
Oui, parce que maintenant, les entreprises à l'étranger sont obligées de charger au Québec des taxes.
Tu vois?
Tu sais, la taxe Netflix, là, fait une saga, mais c'est ça. C'est la TVQ. Et que voilà. Assurez-vous d'être légal!
Super intéressant! Puis, quand tu parles de la VAT, c'est pour les services et les produits, c'est ça?
Exactement, en Europe. Juste vous assurer que votre VAT va bien.
Wow! Votre VAT, puis votre TVQ, puis toutes ces belles
taxes. Oui, puis aux États-Unis, là, ils sont en refonte en ce moment-là. Fait que il y a des nouvelles règles qui vont arriver, là.
Donc là, si on parle de TVQ, pour l'entrepreneur qui est à l'étranger, mais qui charge un montant à quelqu'un qui est au Québec, est-ce qu'on se réfère à quelqu'un des États-Unis ou du Québec pour s'assurer d'être en ordre?
Du Québec. Fait que t'appelles Revenu Québec, puis ils vont... Tu prévois un bon 2 heures d'attente.
Ouais.
Fait que sacre pas. Tu le sais que ça va prendre 2 heures. Moi, je dis ça à tous mes clients. Tu le sais que ça va prendre 2 heures. Fâche-toi pas. C'est un résultat attendu. Fait que là, c'est comment tu peux avoir du plaisir malgré le fait que t'attends pendant 2 heures avant de parler à quelqu'un. Ouais, fait que, ça. Ben... Tu peux aller prendre une marche, tu peux travailler pendant ce temps-là. Tu sais, fais une autre chose, mais que tu sais que tu ne te feras pas déranger. Fait que c'est vraiment ça là, qui est le plus important.
Hey, ben,
c'est vraiment d'appeler.
Super important aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense aussi que ce que je conclurais là-dessus, c'est que sans aller voir un spécialiste qui va regarder tes questions à toi dans ta situation personnelle, tu ne risques pas nécessairement d'avoir fait le tour de la question. Là.
Exactement.
Il y a beaucoup de...
Parce que...
Mais peut-être, ça dépend.
Ah oui. Puis tu sais, la fiscalité, là, on oublie, là, mais c'est des lois, hein?
Ouais.
C'est du légal. Tout ce qui est légal, c'est gris.
C'est ça.
La zone grise, elle est large en titi, là. Il n'y a rien de blanc ou noir. Si quelqu'un dit « c'est comme ça, la fiscalité », tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu bouges tes oreilles puis tu t'en vas.
Ouais.
Il y a toujours des... Si et seulement si, nanana, t'as à peu près 75 options. Fait que tout le monde qui donne des conseils fiscaux sur Internet n'écoute jamais ça. Ça peut te lever des flags, mais assure-toi d'aller vraiment, c'est ça, d'aller voir un fiscaliste parce qu'il y a tellement de nuances. Là, c'est genre les 350 000 nuances de gris. Tu sais, non, mais c'est ça, là. Fait que, faites attention. Il n'y a rien de fixe. Ouais. Parce que vous n'êtes pas salarié. Ça. C'est non. Plus ce statut-là. Là. Donc, voilà.
Donc, avant même d'aller voir comme un spécialiste comme une fiscaliste ou un fiscaliste, ça serait d'appeler à Revenu Québec.
Oui, tout le temps. C'est quoi ton statut d'entreprise? Surtout si tu es nomade, c'est ça. Après ça, c'est est-ce que je suis obligée de charger des taxes malgré le fait que je suis ailleurs? Puis, c'est ça. Parce qu'il y a des règles au niveau du Québec, du Canada, selon le nombre de revenus, nanana. Fait que tu t'assures que tu es légal. Et ensuite, ça fonctionne bien.
Hey, excellent! Puis, on va se coucher vraiment moins niaiseux ce soir. comme le dit l'expression, merci tellement, Geneviève. Là, ça met en lumière des... aussi des trucs, tu sais, qu'on dirait qu'on envoie avec la poussière en dessous du lit, là, à tout tard. Mais là, tu sais, on a des responsabilités, hein? Tout le monde qui écoute, oui. Là, qui écoutez. Alors, allons voir les professionnels, ceux qui savent ce qu'il y en est pour clarifier nos situations. Fait qu'un gros, gros, gros merci. Je rappelle qu'on peut te suivre là, dans ton groupe La Maudite Affaire aussi sur Instagram à Geneviève Paris tout court.
Oui, exactement.
Et, ben, c'était super.
En fait, c'est jen.par. Oui. G-E-N. Oui, mais Geneviève Paris, je ressors très bien. Merci tellement.
J'ai pas posé mes questions qui tuent. Rapidement, je fais toujours ça à la fin de mon entrevue. Alors, j'y vais en rafale. Quelle est ta meilleure série Netflix à vie si, évidemment, tu suis des séries?
Oh mon Dieu! J'ai vraiment aimé Breaking Bad. Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu écoutes des podcasts? Je pense que oui. Si oui, quel est le dernier que tu as écouté?
Aujourd'hui, c'était mon Dieu, Align de Ashley Wood. Oui, c'est un peu ésotérique.
Ça me fait penser que, je veux dire aux auditeurs, à ceux qui écoutent en ce moment, que tu as ton propre podcast aussi. Je suis habituée de le voir sous Jen Paré, mais y a-t-il un autre nom?
Oui, c'est Douceur financière. Ah oui, je suis bien concept.
Parce que c'est dans mes hôtes, là, j'ai pas besoin de te chercher, alors je vais le dire. Si je te donnais un billet d'avion pour aller vivre un an dans une destination de ton choix, ce serait laquelle?
C'est sûr que c'est là, c'est à Hawaï, à Kauai.
Ah, on en avait parlé de ça. Oui. C'est plus qu'un an, en fait, hein, si je ne me trompe pas.
Oui, je vais vivre à Kauai. Oui, ça, je le sais. Ça quand? Va? Je ne le sais pas.
Mais tu visualises.
Ah oui, c'est tellement le plus bel endroit du monde.
J'y aille. Est-ce que tu penses que les expats naissent expats ou bien qu'ils le deviennent?
Oh mon Dieu, moi, je le crois que tu nais de même.
Oui?
Moi, je suis la bébite de ma famille. C'est ça. J'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'aller ailleurs. Oui, on est comme ça. Ça fait partie de notre personnalité, je crois.
Presque dans notre ADN.
Oui.
Bien, encore une fois, un gros, gros merci, Geneviève. C'était super le fun de t'avoir avec nous. Puis vraiment, ça a mis plein de lumière sur des questions.
Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir.
Merci. C'était Geneviève Paré, bien connue dans le monde des entrepreneurs pour amener de la douceur financière dans les situations de chacun. Je vous invite à la suivre via les réseaux sociaux et également à travers son podcast afin d'en apprendre un maximum sur ce sujet que l'on relègue parfois aux oubliettes. Restez avec nous pour découvrir la vie d'expat du Québec sous tous les angles et obtenir des outils pour réussir la vôtre. Pour poursuivre l'écoute du podcast et ne pas manquer d'épisodes, je vous invite à vous abonner à celui-ci. Si vous avez aimé le contenu, ce serait vraiment apprécié, afin de passer le mot, que vous laissiez une review en commentaire et que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux en mentionnant ce qui vous a accroché le plus. N'oubliez pas de me taguer Texas Mama Blog ou Texas Mama Blog Expat. Merci!